Continuer dans notre étude de l'épître de Pierre. On arrive, on continue le deuxième chapitre et je vais lire à partir du verset 11 et jusqu'au verset 7 du chapitre 3. Et je lis dans la traduction Semeur. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu, au roi, qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères en la foi, révérez Dieu, respectez le roi. Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne soient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu, et elles étaient soumises à leur mari. Tel était, par exemple, le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait « mon Seigneur ». C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vendredi, pour la rencontre qu'on avait ici, on partageait sur les psaumes. Et c'est Paul qui nous faisait remarquer que notre société avait un problème souvent avec l'autorité. Et que la lecture des psaumes ferait du bien à beaucoup pour les aider à se réconcilier finalement avec le Père. Et ici, Paul nous parle aussi d'autorité, et il nous invite tout au long de ce passage à nous y soumettre. Et c'est vrai que ce texte est parfois un peu difficile, hein, parce que parfois même un peu choquant pour nous qui sommes héritiers de la Révolution française, héritiers des droits de l'homme, héritiers aussi de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais Pierre, ici, nous montre combien c'est notre identité en Christ qui nous permet d'exprimer notre liberté par la soumission à l'autorité. Alors on va parcourir ce texte ensemble et puis on va essayer de voir comment dans notre rapport à l'État, dans notre rapport à la société qui nous entoure et même dans notre dans nos rapports dans notre famille, comment cette soumission se traduit. Et alors avant de rentrer dans ces trois domaines de soumission, les deux premiers versets que qu'on a lus nous donnent un peu le cadre de cette réflexion. Alors d'abord, évidemment, la société dans laquelle Pierre parle, c'est une société qui est hostile à l'Évangile. C'est une société qui païenne, qui est en train de sortir du paganisme. Et l'opposition que les chrétiens rencontrent est souvent liée au fait que les chrétiens quittent les cultes païens, s'attachent à Dieu, changent de vie, et le texte nous parle plusieurs fois de calomnie, donc les présente comme étant des agitateurs, comme étant des rebelles, des révolutionnaires. Et Pierre nous présente comme étant dans cette société, comme étant des voyageurs, comme étant des hôtes, des résidents temporaires, des hôtes de passage. Et c'est peut-être la première chose dont nous devons prendre conscience, c'est que nous sommes des voyageurs. Notre patrie n'est pas ici, notre patrie est spirituelle, notre espérance n'est pas dans cette société, notre espérance est en Dieu. Et dans ce voyage, Pierre va le lier à notre conduite, va le lier aussi à notre liberté. Depuis, je pense, les débuts de l'humanité, il y a toujours eu une opposition entre les nomades et les sédentaires, entre les nomades qui, effectivement, se promenaient avec leurs troupeaux et les paysans cultivaient la terre. Et il y a toujours eu une opposition entre ces deux groupes-là. Pierre nous rappelle que nous appartenons au groupe des nomades, à ceux qui sont libres. Et il nous dit, voilà, mais cette liberté, rappelez-vous que vous devez lutter pour la garder. Et cette liberté, c'est d'abord une liberté intérieure. Il nous dit, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, de l'homme sans Dieu. Christ nous a dit, la vérité fera de vous des hommes libres. Nous avons été libérés de la loi, du péché et de la mort. Mais cette liberté reste une lutte, reste un combat. D'où les exhortations à la mettre en œuvre et à lutter pour ne pas se laisser mettre en esclavage. D'autres textes nous disent qu'on est esclave de ce qui a triomphé en nous. Pierre nous dit, ne cédez pas au désir donc de cet homme livré à lui-même, et donc d'autres passages listent quelles sont les caractéristiques de cet homme livré à lui-même, hein, la convoitise, les luttes incessantes, la méchanceté. Cette lutte pour une liberté intérieure, pour cette liberté spirituelle que nous avons en Christ, Pierre nous dit, cette lutte se traduit par des actes bons, par des actes que ceux qui vous entourent pourront voir, ces actes qui témoigneront pour vous. Et se faire le bien, cette mise en œuvre de la liberté, cette mise en œuvre de l'Évangile qui nous est donné, va revenir en fait tout au long de ce chapitre qui traite de la soumission et de la liberté. et de la façon dont cette liberté se traduit par des actes et pas par pas par des revendications, mais par une mise en œuvre qui témoigne à notre place. Alors on arrive au verset 13 où Pierre nous dit soumettez-vous à vos semblables. Et dans ces semblables, Pierre va citer le roi, les autorités, le gouverneur. Et dans cette soumission, il nous dit, voilà, en étant soumis à cette autorité-là, vous agirez en homme libre qui n'utilise pas cette liberté pour mal agir, mais qui au contraire sont responsables de leurs actes. Et cette liberté, donc, se traduit par simplement le respect de la loi, le respect de la norme sociale. Et se traduit par le fait de témoigner du respect à tous les hommes. Et cette notion de respect va elle aussi être reprise plusieurs fois dans ce passage. Témoigner du respect aux hommes qui sont vos semblables, qui sont des créatures de Dieu. Et effectivement, le respect, c'est d'abord le fait de reconnaître en l'autre mon semblable, c'est de reconnaître en l'autre un sujet de l'amour de Dieu, pas quelque chose ou un objet dont je pourrais me servir, mais effectivement quelqu'un qui a une identité devant Dieu, qui est comme moi, et à qui je dois de reconnaître cela. En disant le roi est semblable à vous, Pierre s'oppose déjà, d'une certaine façon, à sa société. Donc vous vous rappelez ce que Yann nous a dit déjà en introduction, il y a un petit moment, sur cet épître de Pierre. Mais l'empereur, donc les chrétiens ont été persécutés pendant les premiers temps de l'Église par les Romains, simplement parce que ils refusaient de se soumettre au culte de l'empereur, qui était un culte effectivement plutôt formel, mais l'empereur, son autorité était présentée comme étant une autorité divine. Et Pierre là va dire bon, respectez les lois, respectez l'autorité de l'État, et Paul dans Romains 13 va nous dire toute autorité est instituée par Dieu parce que Dieu veut que le bien soit récompensé dans la société et le mal puni, hein, tout simplement. Donc respectez cette autorité parce qu'elle est voulue par Dieu. Mais Pierre va nous dire cette autorité, c'est pas une autorité divine, elle est soumise à l'autorité divine, et bien sûr, l'empereur ne peut pas prétendre à être autre chose qu'un instrument entre les mains de Dieu. Il va nous dire donc respecter la loi, et ce respect de la loi se traduit par le fait de faire le bien. Il ne s'agit pas simplement de respecter formellement la loi, mais de la mettre en œuvre de telle sorte que ce soit le bien qui soit manifesté et qui soit témoigné. En faisant cela, Pierre nous parle de liberté. Et il nous montre que la soumission à l'autorité n'est pas une domination. Quand il nous dit que l'autorité est représentée par des hommes qui sont semblables à nous, d'une certaine façon, il se place déjà dans un refus de la domination. Et il nous place dans la position d'homme libre. Et c'est pour ça peut-être que les chrétiens n'ont jamais été des révolutionnaires. On n'a pas besoin de se battre pour la liberté. La liberté, nous l'avons déjà. Cette liberté, nous l'avons en Christ, et personne ne peut nous l'enlever. Alors bien sûr, notre contexte, l'état dans lequel nous vivons n'a pas grand-chose à voir avec l'état romain. On ne vit pas dans un totalitarisme. Malgré tout, on est quand même soumis à ce que moi j'appellerais une certaine forme de totalitarisme de la pensée, et c'est quelque chose qui, à mon avis, s'exprime de plus en plus, mais quand dans notre société on nous explique que les valeurs, par exemple, les valeurs républicaines sont au-dessus et sont prépondérantes sur toute autre appartenance, pour moi je vois pas tellement de différence entre le fait de dire que les valeurs républicaines sont au-dessus de tout et le fait de devoir adorer un empereur. Donc pour nous, c'est vrai, le respect de la loi passe par le fait de faire ce qui est bien. Ça passe par le fait de reconnaître notre place dans notre société. Et ça passe aussi par le fait de reconnaître que toute source d'autorité vient de Dieu. Et donc d'assumer notre place d'homme libre, assumer notre place effectivement d'enfant de Dieu, de ceux qui acceptent l'autorité de l'État, mais qui s'en remettent à Dieu. La deuxième partie, donc à partir du verset 18, nous parle de la soumission à un maître, donc là dans une relation, dans un statut d'esclave. D'accord ? Donc dans une soumission à un maître qui peut même être dur, nous dit le texte, et qui nous parle là aussi de souffrance liée à cette obéissance. Et probablement là aussi Pierre fait référence à des souffrances liées au paganisme et au fait que des chrétiens esclaves refusaient d'adorer les dieux de la maison, hein, puisque les Romains adorer des dieux là, si je ne m'abuse, et même en tant qu'esclaves, donc les chrétiens refusaient de participer à ce culte de la maison et en subissaient les conséquences, et Pierre les encourage à supporter les souffrances liées à cette obéissance à Dieu. Et pour les encourager dans cette démarche, il va prendre l'exemple de Christ, il va prendre l'exemple du serviteur souffrant, hein, les versets qui sont cités ici font directement référence à Ésaïe 53, où le Christ est présenté comme l'agneau sacrifié, qui n'a pas répondu à l'injure par l'injure, mais qui a remis sa cause à Dieu. Et là aussi, c'est vrai que dans cette identification à Christ, on peut se rendre compte que la soumission, on peut pas donner d'exemple de soumission plus grande que celle de l'agneau qui est amené à la boucherie et qui ne résiste pas. Et en même temps, plus grande liberté que celle du Fils de Dieu venu sur terre pour accomplir la volonté de son Père. J'ai du mal à imaginer d'homme plus libre que Jésus quand il a vécu sur terre, libre devant rien ne lui a été imposé. Il a choisi son chemin et il a choisi d'y marcher jusqu'au bout. Pas de plus grande liberté que celui qui a accepté de renoncer à sa propre vie et qui a décidé de s'attendre à Dieu en toute chose. Donc là encore, ce passage nous montre que la soumission vient d'abord reflète une attitude intérieure, une réalité de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, et est complètement liée à cette identification au Fils de Dieu, au Fils de l'homme. On arrive au troisième domaine d'application de cette soumission et de cette liberté dans la soumission. Donc ce passage difficile de femmes, soyez soumises à vos maris. Alors c'est vrai qu'au premier abord, on peut y voir un texte patriarcal. Mais pourtant, c'est quand même le contexte d'application qui est le plus proche du nôtre. Hein. Autant on ne vit pas dans une société totalitaire, on ne vit pas dans l'esclavage, autant les relations dans le mariage sont toujours d'actualité, et nous devons nous-mêmes nous y confronter de façon, pour certains quotidienne, et puis pour beaucoup, on est tous, alors je regarde les gens dans la salle, mais je pense qu'on y est, voilà. Si on a été marié ou on l'est, donc et en même temps, donc c'est un contexte qui nous touche le au plus près, et pourtant c'est le domaine d'application qui est le plus éloigné de notre société. Le respect de l'autorité de l'État fait partie des valeurs que notre société partage. La soumission au statut actuel de salarié, le statut de salarié participe au fait de se soumettre à son patron, de lui obéir. Hein, et même si il y a les droits du travail pour protéger le salarié, il y a quand même une dimension d'acceptation de l'autorité du patron sur son employé. Donc c'est quelque chose qu'on peut partager. Autant la dimension de la soumission de la femme à son mari, c'est quelque chose que, pour le coup, notre société rejette, alors si pas dans les faits, au moins dans le discours, de façon exponentielle, j'ai envie de dire, ces dernières années. Et pourtant, donc, nous devons recevoir ce texte, et personnellement, je me sens pas forcément à l'aise avec ça, parce que la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes, on a envie c'est une valeur qui on a envie de partager, et ce texte-là semble le contredire. Alors on peut quand même faire quelques observations sur ce texte, et d'abord sur les mots qu'il introduisent. Donc Pierre va dire vous de même femme, et un peu plus loin vous de même mari, vous de même, alors que Pierre vient de parler de Christ. Donc ce que Pierre va dire sur l'attitude des hommes, enfin des maris et des femmes, est directement lié à notre identification à Christ, au fait que nous suivons son exemple. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est Pierre va lier cette attitude-là au témoignage. De la même façon que notre comportement dans la société a pour but de témoigner de l'action de Dieu dans notre vie, de la même façon, notre comportement au sein de notre famille est là aussi, a là aussi une portée de témoignage. Ensuite, Pierre va lier cette soumission, là encore, à une réalité intérieure. Il va dire, rechercher cette beauté intérieure, cette paix, cette douceur, cette assurance, cette espérance en Dieu, Et c'est de cette réalité intérieure que votre soumission pourra se manifester. Une autre remarque, c'est la place du respect dans cette relation de couple. Dans ce texte, il n'est pas parlé d'amour, mais il est parlé de respect. Et le respect, là, est réciproque. De la même façon que les femmes sont appelées à respecter leur mari, les maris sont appelés à respecter leur femme. Et dans ce respect, c'est aussi l'égalité devant Dieu qui est mise en avant. Rappelez-vous qu'elles aussi vont hériter de la vie que Dieu donne. Donc cette égalité ontologique, cette égalité de valeur devant Dieu, ce respect réciproque est mis au centre de la relation entre une femme et son mari. Et puis enfin, Pierre va prendre pour exemple Abraham et Sarah, en prenant donc l'exemple du respect que Sarah témoignait à Abraham en l'appelant mon Seigneur. Donc, si on connaît un petit peu l'histoire d'Abraham et Sarah, on ne peut pas dire que la relation qu'ils ont eue, leur vie a été un long fleuve tranquille dans laquelle Sarah a soutenu conditionnellement et son mari, et de la même façon, Abraham n'a pas non plus été un modèle de mari. C'est le moins qu'on puisse dire, comme la plupart des pères de, des géants de la foi, on peut les appeler comme ça, leur vie familiale a toujours été franchement chaotique. Et pourtant, c'est quand même cet exemple-là que Pierre va prendre. Donc ça peut déjà quand même nous décomplexer un petit peu par rapport à nos vies de couple. Et alors ma première préoccupation quand j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que je pouvais dire sur ce passage-là, c'était d'abord de ne pas poser de fardeau sur ceux qui vont écouter ce texte. Je ne crois pas que que l'objectif de Pierre en disant cela, ce serait de mettre comme une grosse pierre justement sur le couvercle d'une marmite familiale là qui boue et qui chauffe, en disant bon ben voilà, je mets un gros truc dessus là, soumettez-vous et puis voilà, que tout ce qui peut se passer dessous reste caché et dessous. Une démarche comme celle-là reviendrait plus à favoriser la soumission comme étant une relation passive, comme étant une relation dévalorisante. Et à mon avis, ce texte ne fait, c'est pas ça que ce texte fait ressortir. Ce texte fait pas ressortir ni la passivité ni la dévalorisation. Alors évidemment, il y a une part de culturel hein, dans la façon de présenter ce texte-là. Appeler son mari Monseigneur, bon, on a du mal à imaginer de pouvoir transposer ça directement dans notre société. Alors bien sûr, il y a une part de culturel, mais il y a quand même quelque chose qui doit nous interpeller et qui doit ce texte est là pour nous dire quelque chose et il faut qu'on arrive aussi à l'accepter. Alors je vais pas faire une étude sur ce que peut être le mariage et comment se comporter dans une relation de couple, parce que ça déborderait largement d'une part mes compétences et puis d'autre part le temps qu'on a ensemble. Mais la première chose quand même qui vient quand on pense à un mariage, c'est que c'est un lieu où, alors moi je le dirais comme ça, mais où nos échecs nous font le plus mal, où on est le plus fragile, le plus avif, le plus susceptible d'être blessé, mais aussi le plus susceptible d'être encouragé. Et c'est pour ça que donner des règles de de comportements dans des situations qui peuvent être qui peuvent être abusives, qui peuvent être violentes, qui peuvent être, enfin il y a beaucoup de contextes différents qui font que donner des règles qui s'appliqueraient à tous et de la même façon serait contre-productif. Mais ce texte quand même nous donne des directions dans lesquelles on peut réfléchir chacun dans nos circonstances. Et la première direction dans laquelle ce texte nous pousse, c'est de réfléchir sur la place du Christ dans notre couple, parce que ce texte nous montre que le Christ est à la source de notre identité, à la source de ce vers quoi nous tendons. Il est aussi la source de notre consolation, de notre guérison, face à, justement à ces échecs qui nous font mal. Le Christ a porté nos blessures. C'est lui qui nous guérit de ce péché qui s'attache à nous, qui nous blesse dans ce que nous sommes. C'est d'abord en lui qu'on trouve, je crois vraiment la force de vivre l'Évangile dans le mariage. La deuxième direction de réflexion, c'est que, au-delà des différences entre les hommes et les femmes, et ces différences existent, des différences de rôle, des différences d'attente, des différences de sensibilité. Donc, ces différences existent, mais ce qui rassemble, ça reste le service. Un service réciproque qui valorise l'autre, et où la place de l'autre est reconnue. C'est, à mon avis, le sens de ce respect qui est témoigné dans les deux sens, de justement servir et valoriser. Moi, si je réfléchis à ce que ça pourrait représenter que le fait que Sandrine me soit soumise, je pense que pour moi c'est ça. C'est une façon de valoriser ce que je suis. C'est comme ça que moi je le reçois. Alors, c'est vrai que c'est un peu je prêche devant vous, je prêche aussi devant ma femme. Et je pense pas que la soumission soit quelque chose qui se réclame, qui s'impose. Le texte ne dit pas « soumettez vos femmes ». La soumission, c'est quelque chose qui est volontaire et qui s'offre. Et moi, en tant que mari, je vois ce que ça peut représenter pour moi. Moi, en tant que mari, ce texte me dit de respecter ma femme et de la considérer avec du discernement. Et les autres textes qui nous parlent de mari, aimez vos femmes, bien oui, ça me parle de service et de cette façon, oui, de lui manifester mon respect et de la valoriser à son tour. Alors, je n'ai pas envie de donner des généralités comme ça sur le mariage qui peut-être nous amènerait pas très loin, mais simplement je veux recevoir ce que ce texte a à me dire et ce qu'il m'apprend sur ce que c'est que la soumission et sur ce que c'est que la liberté au sein même du mariage. Alors je vais terminer là en vous rappelant que nous sommes libres. Que nous sommes libres de la mort, que nous sommes libres du péché, et que c'est cette liberté, c'est cette assurance qui nous permet d'accepter l'autorité dans ce monde. Et cette acceptation de l'autorité, c'est pas une acceptation passive, c'est pas une passivité, c'est pas non plus une domination. Parce que cette soumission à l'autorité, elle se traduit par la recherche du bien. Elle se traduit par un témoignage actif, là où nous sommes, de celui qui nous a précédés dans ce service, sur ce chemin du service. C'est un témoignage d'abord à Christ. Alors, que cette vie que le Christ a placée en nous, que cette vie puisse inspirer notre attitude et nos choix, autant dans notre travail, parmi les gens qu'on fréquente, et aussi dans nos familles. Le texte se termine en disant « Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières ». On boucle un peu la boucle, on a commencé avec la liberté intérieure, et on continue avec, on termine avec cette notion de relation à Dieu qui irrigue toute notre vie, et le fait que en acceptant notre place, en nous mettant aussi au service les uns des autres, et en particulier dans notre famille, alors la prière, la relation à Dieu pourra faire jaillir des fleuves d'eau vive dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse.